Albert Sim, Les 100 francs de Madame Rager, ou Réfléchir avant d'agir. Madame Rager ne fut pas peu surprise, en descendant de wagon à la gare de Bar-le-Duc, de constater qu'il ne pleuvait pas. Elle arrivait de Révigny, gentille bourgade située à 4 lieues de Bar, et pour aller prendre le train 3 quarts d'heure auparavant, il avait fallu marcher une bonne partie du chemin, courbée sous son parapluie tout ruisselant d'eau. Elle avait même songé un instant à différer son départ, tant la rafale faisait rage, et à regagner la demeure de son frère, d'où elle sortait. Heureusement encore qu'elle avait rencontré sur sa route le père Léchaudel, le commissionnaire de Révigny, qui lui avait offert une place dans sa carriole et l'avait ainsi menée, abritée tant bien que mal, jusqu'à la station. Et maintenant, le vent s'était apaisé, des coins du ciel bleu apparaissaient, et le soleil recommençait à briller. « Ah, on voit bien que nous sommes en plein mois de mars, dans la saison des giboulées !» se disait-elle. Madame Rager était d'ailleurs enchantée de son voyage à Revigny. Elle était allée conduire sa fille Herminie chez son frère, bourrelier cellier sur la place de la mairie, et en même temps touchée dans l'étude de maître Didelin, le notaire de l'endroit, une créance sur laquelle elle ne comptait plus, une 100aine de francs due jadis à son mari et réclamée en vain depuis plus de 10 ans. Ces 100 francs, elle les avait reçus en pièces d'or, 5 belles pièces toutes neuves, toutes luisantes et étincelantes, qu'elle avait aussitôt précieusement enfermées dans son porte-monnaie. Et en évoquant ce tout récent souvenir, Madame Rager glissa machinalement la main dans sa poche pour s'assurer que le dit porte-monnaie s'y trouvait toujours. Mais non, il n'y était plus. Elle s'arrêta net, fouilla de nouveau. Ah, mais ne l'aurait-elle pas laissé tomber dans le wagon ? Vite, elle rebroussa le chemin, et pendant que les voyageurs se dirigeaient vers la sortie, elle regagna en courant le compartiment qu'elle venait de quitter. Il était vide. Madame Rager l'explora d'un bout à l'autre dans tous les sens, se baissa pour regarder sous les 2 banquettes. Rien. Mais mon porte-monnaie a dû tomber là, cependant, ruminait-elle. Ce n'est que là que je puis l'avoir perdu. Je l'avais encore tout à l'heure en quittant Revigny. Je me le rappelle parfaitement. Après l'avoir ouvert pour payer mon billet, je l'ai gardé dans ma main. Quelqu'un ne l'aurait-il pas ramassé ? Sûrement, on a dû le ramasser. Un voyageur est descendu derrière moi, un individu de petite taille qui boitait. J'ai même cru un moment qu'il trébuchait, je me suis retourné. Oh, pas du tout. Il s'était courbé, il avait étendu le bras, il tenait quelque chose. C'était mon porte-monnaie, mais certainement, j'y suis. Le chef de gare, je voudrais parler au chef de gare, conclut à haute voix et impérieusement Madame Rager. Dès qu'il comprit de quoi il s'agissait, le chef de gare invita la plaignante à renouveler sa déposition devant le commissaire de surveillance, qui se trouvait d'ailleurs à quelques pas de là dans son bureau. Vous êtes bien sûr de ce que vous avancez, madame, demanda le commissaire. Vous avez bien vu cet homme se baisser dans le wagon, puis se relever, un porte-monnaie à la main. Mais vu de mes 2 yeux, monsieur, comme je vous vois. Et cet homme est de petite taille, boiteux. Boiteux, oui, monsieur. Et vêtu comment ? Oh, vêtu très pauvrement. Son paletot est tout râpé, un col de velours émaillé et grasseux. Oh, son chapeau, un ancien chapeau melon gris-souris, n'a plus de forme ni de couleur. Bien, cela suffit, madame, nous allons faire des recherches. J'ai bien votre adresse, madame veuve Séraphine Rager, rentière, rue du Jard 5 à la Ville Haute. Oui, c'est bien cela, monsieur. Madame Rager, qu'on désignait couramment sous le nom de Madame Enragée, où la mère enragée habitait au rez-de-chaussée d'une modeste maison de cette rue du Jard, non loin de l'épicerie Lorrain et presque en face de l'entrée du Paquis. On appelait et on appelle encore ainsi une ancienne esplanade plantée de tilleuls et d'ormes, située sur les hauteurs de la ville, sorte de jardin public abandonné, dédaigné des promeneurs élégants qui lui préfèrent de beaucoup les bords du canal ou le boulevard de la Rochelle, mais que tous les gamins d'alentour connaissent bien et qui leur sert de lieu de récréation, de champ de course et de quartier général. Ah, les bonnes parties qu'on y faisait dans ce vieux paquis! Que de poursuites, de galopades endiablées, de jeux de cache-cache, de chat-perché ou de chaloupe! Ah, que de cris, de querelles, de batailles! Toute cette jeunesse et ce vacarme causaient le désespoir de Madame Rager, l'énervait, l'affolait, la rendait vraiment enragée. Sans cesse on la voyait, son balai à la main, s'escrimer contre ses garnements. On entendait les apostropher. « Mauvais sujet, polisson, ah, si je vous attrapais, si j'en tenais un seulement. Toi surtout, les Vardereaux, c'est toi le plus mauvais, c'est toi qui entraînes toujours les autres. Oh oui, je le remarque bien. Je le disais encore hier à ton papa, méfie-toi, je te tirerai les oreilles quand je te rencontrerai, mon fils. » Madame Rager était célèbre alors dans toute notre ville haute par sa brusquerie, ses quintes d'humeur, ses violences de langage, ses incartades et bourrasques perpétuelles. La modération et la circonspection n'étaient nullement son fait. Elle ne savait ce que c'était que réfléchir, observer et peser ses paroles. Pour employer une expression locale qu'on lui appliquait encore volontiers, c'était une évalonnée. De retour au logis, elle s'empressa de conter à tous ses voisins et voisines, au cordonnier Husson, à l'épicier Lorrain, à Vaugier le boulanger, au tambour de ville Pichancourt, dit sans façon, à M. Juminel, le Suisse de la paroisse, à la sacristine, Mlle Sophie Caballot, à tous les passants, à tout chacun, le vol dont elle avait été victime, et naturellement elle ne manquait pas de délayer et enjoliver son récit. Vous osez commettre un tel larcin en plein jour, publiquement, à votre nez en quelque sorte. Il faut une adroit, une audace, car autant dire qu'il m'a arraché de force mon porte-monnaie. Oh, c'est tout comme. Il y a vraiment sur terre des êtres bien dangereux, des criminels qu'on ne saurait trop châtier. Mon Dieu, Madame Rager, répliquait doucement et avec son air placide le brave père Lorrain, attendez-vous au moins que la culpabilité de votre voleur soit démontrée.
Et si ce n'était pas lui,
ajoutait de sa voix nasillarde traînante et solennelle le tambour de ville sans façon.
Mais comment vous doutez? Ah, par exemple!
Mais Madame Rager, il ne cesse de nier, lui,
objectait M. Sans-Façon. Mais il proteste sans relâche de toutes ses forces, ripostait M. Lorrain. La police n'avait pas tardé, en effet, à mettre la main sur le voyageur suspect, le petit boiteux, si nettement et véhémentement dénoncé par Madame Rager. C'était un ouvrier tailleur qui, n'ayant pu se procurer d'ouvrage à Châlons ni à Vitry, était venu en chercher à Bar-le-Duc. On l'avait découvert dans une chétive auberge de la rue de Saint-Miziel. À la descente des mariniers, et comme on avait trouvé sur lui une somme de 80 francs en pièces d'or, en pièces neuves précisément, on l'avait arrêté. Cette somme, s'obstinait-il à déclarer, provenait de ses économies. C'était tout son avoir, ses seules ressources. Il avait amassé ce modeste pécule à Reims en travaillant spécialement pour des ouvriers de fabrique qui lui donnaient leurs vêtements à ravauder. Malheureusement, la besogne avait fini par manquer, et c'est alors qu'il était parti. Mais, en présence des énergiques assertions de Madame Rager, Le juge qui avait mission d'instruire l'affaire, M. Houzelot, crut devoir retenir le petit tailleur, Jean-Gaspard Saute, natif de Delft, et on le conduisit en prison en attendant la continuation de l'enquête. « Mais monsieur, ne cessait-il de répéter dans son baragouin, où il mélangeait à plaisir le hollandais, le flamand et un semblant de français. « Monsieur le juge, je vous jure, je suis innocent. C'est pas moi qui ai dérobé le porte-monnaie de cette dame. Ben, j'étais bien avec elle dans le wagon, je me le rappelle, je la reconnais. Je suis bien descendu derrière elle, mais j'ai rien ramassé par terre, ni ailleurs, absolument rien. Elle se trompe, monsieur le juge. Mais cet argent, ces 4 pièces d'or, je les ai gagnées à Reims, mises petit à petit de côté. Mais je vous ferai observer qu'elles sont toutes neuves, que la plaignante déclare que ce sont celles-là même qu'elle a reçues de monsieur Dublin, le notaire de Révigny. Mais c'est pas possible, monsieur le juge, je vous l'affirme, je vous le jure, elles sont bien à moi. « Je suis un honnête homme qui n'ai jamais fait de tort à qui que ce soit !» protestait sans relâche l'infortuné petit tailleur. Or, le dimanche suivant, vers les 9h30 du matin, Madame Rager s'apprêtait à se rendre à la messe paroissiale, quand M. Lorrain lui apporta diverses fournitures d'épicerie qu'elle avait commandées la veille. Oh, dépêchons-nous, monsieur Lorrain, je suis déjà en retard, et par ce mauvais temps. Oh, quelle pluie, hein ! Ça tombe à verse. C'est fâcheux pour un dimanche, surtout que depuis mon retour à Revigny, depuis mercredi dernier, il a fait si beau. Effectivement, on aurait cru l'hiver fini, et voilà les giboulées qui recommencent. Posez tout sur la table, interrompit Madame Rager. Oh, c'est cela, attendez. Je sors avec vous. Jette mon parapluie à prendre. » Et comme, après avoir fermé sa porte, et au moment de s'engager dans la rue, notre loquace et remuante dame ouvrait son parapluie, le même qu'elle avait emporté à Revigny, quelque chose s'en échappa, qui vint choir aux pieds de M. Lorrain. « Que c'est que cela ? » fit celui-ci en se baissant. Un porte-monnaie. Ah, oh, mais c'est le mien. Ah oui, celui que vous réclamiez. Ben, c'est vrai, balbutia-t-elle. Et comme elle l'entrouvrait. Ben voici vos 100 francs, ils y sont bien. Vos 5 pièces d'or. Oui, je sais. « Heureusement qu'il a plu aujourd'hui, Madame Rager, » continua le père Lorrain, « et vous êtes obligé de sortir, autrement vous ne vous seriez pas encore aperçu de la chose, et vous continueriez à accuser ce pauvre diable. Votre porte-monnaie, c'est bien facile à comprendre, a glissé dans l'intérieur de votre parapluie l'autre jour, votre parapluie que vous veniez de fermer en montant en wagon et que vous teniez entremaillé entre vous. Vous n'avez pas eu besoin de rouvrir en arrivant à Bar. » puisqu'il faisait beau temps, comme vous venez de le rappeler. Et sans l'appui de ce matin, vos 100 francs seraient encore cachés là. Ces 100 francs, il fallut, sur le conseil même de M. le juge Houzelot, les verser au petit tailleur pour l'indemniser du préjudice que lui avait causé Mme Rager avec ses accusations aussi méritées qu'acharnées. Mais il m'avait pourtant bien semblé le voir. Ah, vous dites sembler à présent. Tandis qu'auparavant, vous n'hésitiez pas, vous prétendiez formellement et affirmiez, mordicus, l'avoir vu de vos propres yeux, ramasser votre porte-monnaie. Je vous engage, madame, acheva M. Houzelot, à vous montrer une autre fois plus circonspecte et mieux avisé. À ne pas oublier l'antique devise de notre contrée. Plus penser que dire, et par suite, surtout quand il s'agit de l'honneur d'un de vos semblables, à mûrement réfléchir avant d'agir.